Bonjour à tous et bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 34. Aujourd'hui au programme, on va souffrir, hein. On va souffrir bien comme il faut, puisque nous allons parler de trois films où la vie est dure, à savoir Mathias et Maxime, Hors Normes et Sorry We Missed You. C'est Guillaume et Micro, et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de LOL. J'ai nommé Yannick et Fiona. Au courrier aujourd'hui, un message de Aurélie de Paris, qui nous dit « Merci pour votre critique du Joker, le film que j'ai trouvé très très bon. C'est très intéressant d'avoir vos visions de professionnels du scénario sur le film. » C'est gentil Aurélie. Outre la grande beauté du film et le jeu hallucinant de Phoenix, j'ai beaucoup aimé que le film soit pas dans une logique bien huilée de bien et de mal et nous laisse avec pas mal de questions. Et même si comme Fiona de prime abord j'ai été un peu contrarié par la toute fin du film, finalement je trouve que nous faire sortir du film avec des doutes sur ce qu'on vient de nous raconter est totalement en adéquation avec un personnage comme le Joker. Merci Aurélie et si vous voulez faire comme elle, vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Oui Fiona.
Il y a aussi une certaine Camille qui nous a laissé une critique sur Facebook disant qu'elle était tout à fait d'accord avec mon analyse de Joker.
Voilà, je voulais le dire. Je l'ai raté. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Mathias et Maxime, écrit par Xavier Dolan, dont c'est le huitième film. Alors va-t-il nous dire pour la huitième fois que c'est dur d'être gay et qu'il a des problèmes avec sa mère? Eh bien, réponse après le pitch de Yannick.
Donc le pitch de Mathias et Maxime, c'est deux amis d'enfance qui ont la trentaine et qui, un soir de beuverie avec d'autres potes, décident de se prêter au jeu d'acteur et de s'embrasser pour une espèce de court-métrage. Ils hésitent un peu et on comprend vite pourquoi, parce que en fait, ça réveille chez eux une sorte d'attirance sexuelle, une tension sexuelle entre eux. Particulièrement pour Mathias, ça pose problème puisqu'il a quand même une petite amie et une vie un peu rangée dans un bureau. Et donc petit à petit, en fait, cette espèce d'attirance va le bouffer de l'intérieur et l'éloigner de son meilleur ami, Max.
Totalement. Donc c'est un film sur un groupe d'amis, on va le dire, qui se focalise évidemment sur deux personnages qui sont, c'est facile à dire, Mathias et Maxime. On va commencer par le personnage et donc parler de Maxime, qui est interprété donc par Xavier Dolan, parce qu'en plus de réaliser, d'écrire, de produire, il joue dedans, hein, tant qu'à faire. Et alors le personnage de Maxime, la première chose qui frappe, c'est qu'il a une énorme tache de naissance sur le...
Tache de vin.
Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous ressortir le fameux coup de Ready Player One en disant que l'homme personne n'est défiguré? Non, en fait, cette tâche ne sert à rien. Donc je me suis dit, quel intérêt de mettre déjà...
Il y a une petite référence.
Il y a juste une référence où justement à la fin, quand il s'engueule ou quand l'autre refuse son homosexualité, il va chercher la confrontation exprès et il l'appelle la tâche. Et donc on comprend que c'était comme ça qu'on appelait Maxime, c'est ça, c'est Maxime, pour l'emmerder, on suppose, quand ils étaient adolescents.
Mais tu sens que ça fait partie quand même de sa personnalité, où il y a une scène où il est devant un miroir complètement bourré et il cache cette espèce de tâche. Tu vois, et donc tu te dis, c'est quand même un poids énorme dans sa vie. C'est-à-dire
je ne m'en souviens plus du tout.
Oui, et moi, je suis d'accord avec Yannick, c'est un poids dans sa vie. Et je trouve qu'elle n'est pas anodine, cette tâche. Alors, elle n'est pas... Bien sûr, tout le film ne tourne pas autour. Mais je trouve qu'elle est bien exploitée. Et le personnage de Maxime... Alors, ça va rejoindre le thème, mais je vais juste l'évoquer une seconde ici. Pour moi, c'est un film sur le fait de s'auto-accepter soi-même. Et pour Maxime, ça passe par cette tâche de vin. D'où cette scène où il essaye de la cacher dans le miroir, où il s'imagine... sans. Et pour moi, c'est important puisque ça montre à quel point il est intégré dans ce groupe. Il existe, on voit que pour lui et cette bande d'amis, cette tâche n'existe plus. Et quand Mathias fait référence à cette tâche à la fin, c'est pour moi vraiment une dissociation, un éloignement de Mathias avec le groupe en disant je fais référence à une référence puérile. Pour dire, non, moi maintenant je la vois, cette tâche, tu n'es plus dans mon groupe, quoi.
Très bien, alors pour parler du personnage de Mathias, lui il a la trajectoire un peu plus compliquée, parce que lui il est carrément en couple, avec une faille qui est légèrement casse-couille, mais ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré. Elle a juste une toute petite scène où elle dit non, ça suffit, où vraiment elle est filmée comme la femme un peu autoritaire, où elle est dans le couloir, les mains sur les hanches, en disant, viens, avec toi, je vais t'engueuler. Et puis quand ils sont sur la route, il y a cette scène où il regarde tous ses potes en disant, j'aimerais être avec eux, ils sont en train d'écouter de la musique, ils kiffent. Et lui, il est dans la voiture avec sa femme, il se fait chier, et puis du coup, elle le dépose comme elle déposerait son enfant à une garden party avant de se barrer. Il y a ce côté où lui, il a plus de conflits parce qu'il doit lutter contre ce couple qui est déjà installé, où je crois même qu'il prédispose à avoir des enfants, il commence à en parler. Et donc du coup, il dit, est-ce que je lâche tout pour quelque chose qui était déjà fait pour repartir dans un nouvel amour? Je ne sais même pas si je suis vraiment gay, et deux, je ne sais même pas si ce couple va marcher.
Justement, ouais, Mathias est un personnage intéressant parce que lui, il est dans une vie très rangée, il a une famille très aimante, il est dans un parcours de vie qui va bien, il va bientôt être promu dans le cabinet d'avocat dans lequel il travaille, et on sent que même cette promotion, il n'en veut pas vraiment, il commence à se ranger dans cette vie et il n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, lui, c'est vraiment le protagoniste du film. C'est lui qui va devoir se décider sur son avenir, globalement.
Alors après, on n'évite pas les clichés avec ce personnage. Hein, parce qu'il y a deux scènes, notamment, j'y pense, c'est la scène où il voit une plante en train de mourir pendant que son patron lui parle. Il est tellement au-dessus de ces choses que lui, il regarde des plantes en train de mourir. Et quand tu reviens, elle n'est plus là. Et l'autre scène, c'est aussi, c'est justement après la fameuse scène du baiser, où il va nager, et puis il y a une belle musique au piano, et puis il nage pour quelque part s'échapper de lui-même, et il arrive de l'autre côté de l'autre rive, et là, il y a une vieille grand-mère qui dit « mais je vais vous ramener », et non, et il renage de l'autre côté, et tout le monde s'inquiète. Enfin, c'est trop
oui,
gros,
c'est,
ça,
c'est des choix un peu d'auteur pour montrer que le personnage est perdu, globalement. Il souffre. Voilà, il souffre, il est perdu, et il se perd littéralement en nageant.
Mmh. Yannick ?
Non, la plante, j'avais pas compris ça comme ça. Moi,
Si, peut-être... pourquoi ça veut dire si tu restes dans ce cabinet, tu vas mourir.
C'est ça.
Voilà. Ah, oui. T'es une plante qui est en train de crever et
tu vas finir comme elle.
Et tu vas finir comme elle. Après, moi, je l'ai trouvé assez vrai et touchant. Mais j'ai trouvé tous les personnages très réels et la bande de potes fonctionne extrêmement bien. J'ai trouvé toutes les scènes de groupe. Bah, on voit que Xavier Dolan, c'est vrai pote et ça se sent, je trouve. Mais moi, j'ai surtout un gros coup de cœur pour le personnage de Maxime. Bon, déjà, je trouve que l'interprétation de Xavier Dolan, elle est vraiment très juste. Et justement, lui qui d'habitude fait un peu de l'esbrouf, est un peu arrogant, là, il revient avec un personnage qui est assez timide, réservé et complexé. Et je trouve que ça lui va très bien, cette douceur. Et je trouve ce personnage qui, justement, est aux antipodes de ses amis, pour le coup, il a une mère qui est maltraitante, alcoolique. Et qui lui est obligé d'être un adulte pour sa mère, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pour ambition d'aller en Australie pour être barman et avoir comme une deuxième jeunesse ou même une première jeunesse, puisque clairement il n'a pas eu celle qu'il devait avoir, quoi.
Oui, il s'enfuit parce que sa mère a quand même une espèce de cliché de la mère alcoolique, enfin, l'impression d'avoir vu ça un milliard de fois. Et c'est vrai qu'il a un frère qui répond jamais, et je crois qu'il y a une scène à la fin où il va le voir, et en fait on découvre son frère est en train de danser à la fenêtre. Voilà. Visiblement il passe ses soirées à faire ça, donc du coup il est obligé d'être quelque part le père de cette famille, mais il y a sa mère qui est alcoolique et qui est pas démissionnaire mais qui est une mauvaise mère, et il a une deuxième mère aussi, je crois, qui est sa tante, qui est la deuxième figure de la mère, qui elle aimante, et qui est la mère que quelque part il a toujours voulu avoir.
Mais c'est pas ça, là c'est pas sa tante, c'est plutôt la mère justement de Mathias.
Ah, c'est la mère de Mathias.
C'est la mère de Mathias. À un moment il y a cette tante qui vient pour devenir la tutrice de sa mère, et qui est une femme qui a l'air tout à fait normale et aimante par rapport à son neveu, mais qui n'est pas toujours là et qui là vient exprès pour prendre le relais. Mais sinon, oui, il trouve une seconde famille. Typiquement, là, vraiment, sa seconde famille, c'est ses amis. Et c'est pour ça que le conflit qu'il va vivre avec Mathias, c'est encore plus dur pour lui, parce que s'il perd ses amis, il perd aussi sa famille.
Oui, mais par définition, il part en Australie, donc déjà, il a fait un choix. Moi, je trouve que
oui, c'est vrai.
Le conflit
c'est vrai.
Est plus sur Mathias, c'est-à-dire de perdre son amitié avec Max.
Enfin, oui, mais
j'ai
à la fin,
l'impression qu'il subit tant que ça.
À la fin, on n'est pas trop sûr qu'il parte, quoi. On va passer à l'intrigue. L'intrigue, moi, alors une chose que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est justement comment ils arrivent jusqu'à ce premier baiser. C'est-à-dire que vous l'avez dit, les scènes de groupe sont plutôt pas mal. Bon, je comprenais rien ce qu'ils racontaient. Heureusement qu'ils ont sous-titré, parce que je les comprends mieux quand ils parlent en anglais que quand ils parlent en français. Et tout cette espèce de... J'ai trouvé ça très crédible, l'espèce de défi. Mais oui, tu reprends tout le monde. Enfin, je me suis recueilli en ce personnage. Et non, on dit pas ça, on dit ça. Il aurait pu dire truc aussi, ce personnage. Et tout la preuve vidéo qui amène à ce pari est plutôt bien amené.
Mais parce que les scènes de groupe sont incroyablement faites.
Enfin, oui, c'est bien géré. On voit bien que là, au niveau des les dialogues sont très bons. Bon, moi, j'adore le québécois, donc j'ai adoré en entendre. Mais en plus, c'est aucun personnage n'attend pour prendre sa réplique. Donc c'est pour ça que ça rend l'ambiance très réelle.
C'est vrai qu'il n'y a que la sœur qui est insupportable, mais bon, elle, c'est vraiment un personnage.
Même ça,
mineur.
Tu l'acceptes. Elle est très clichée.
Mais d'ailleurs, juste, je reviens une seconde sur les personnages, parce que j'ai lu qu'il a été beaucoup critiqué sur ses personnages féminins, Xavier Dolan. Mais alors, oui, certes, sa mère est alcoolique, mais je trouve que les autres. Et la petite adolescente est une tête à claque. Mais moi, je n'ai pas trouvé que la femme de Mathias était une tête à claque, enfin, était chiante. Moi, je trouvais qu'au contraire, elle était sympa. Elle lui dit, mais va avec tes copains. Elle n'est pas du tout embarrassée par le baiser qu'il a fait dans le court-métrage. Je la trouve plutôt cool, sa copine, à Mathias.
Et pour les rôles de femmes, il y a les trois mères au bout d'un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire que dans une soirée qui se passe,
la mère de
Rivette,
chez
Mathias,
chez Rivette,
il y a trois femmes complètement un peu
excentriques.
Et c'est hallucinant comme elles sont drôles, c'est super bien joué. Et là, en l'occurrence, je trouve ça super
alors,
bien
elles sont effectivement un petit peu folles dans un autre extrême, mais je les trouve quand même assez attachantes, c'est des femmes aimantes, donc je ne comprends pas trop les critiques qui s'est pris au niveau de l'image de la femme, parce que sa tante est tout à fait normale.
Bon, alors, outre le fait que moi, ce qui m'a choqué, c'est que il y a un de leurs meilleurs potes depuis toujours, et il part en Australie, Il organise une soirée donc de départ où il joue au Time's Up. Bon, merci les
non,
mecs.
Non, mais c'est une soirée. Dans la soirée, il joue au Time's Up, c'est tout.
Ouais, bah, bravo. Et on va.
Toi que ça dérange.
Toi que ça dérange.
Je me suis dans les tailles. Moi, ça m'a choqué sur les mecs. Les mecs, c'est l'ami des enfants. Et viens faire un Time's Up.
Bref. Non, mais tu sens que c'est toute une soirée.
Bref, on s'en fout. On s'en fout. C'est un détail.
C'est bien fait quand c'est accéléré. Je trouve ça super bien fait, moi, avec la musique et l'accélération de la soirée où tu vois que le temps passe.
Ouais, une ellipse, quoi. Ouais.
Oui, mais elle est bien gérée joliment.
Très bien. Et alors, on va parler donc du dernier retournement du film quand Maxime apprend que s'il a jamais eu sa lettre de recommandation, c'est parce que Mathias l'avait cachée. Alors déjà, ça c'est une parenthèse réalisation, j'ai pas compris pourquoi il était filmé vraiment au bord de l'écran avec une grosse couverture qui lui cachait la moitié du visage. Mais bref, c'est pas grave. Mais ça, moi je me suis dit, cette intrigue ne marche pas du tout parce que on sait très bien pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce qu'il était amoureux de lui et quelque part il l'aimait et il voulait le faire souffrir. Et quand à la fin il est en train de l'attendre, évidemment qu'il va le pardonner. Ça va pas du tout remettre en cause leur relation. Fiona.
Non, mais moi, alors déjà, moi, j'ai quand même beaucoup aimé cette scène parce que bon, bah là, je trouve qu'elle est très bien écrite et Xavier Dolan, là, il m'a vraiment touché quand il est au téléphone et qu'il pleure en essayant de parler correctement à anglais à cette dame pour avoir cette lettre de recommandation. Mais oui, il se dit juste, en fait, merde, c'est mon meilleur pote. Mais ça en fait, là, il se dit, ce baiser et tout ça, ça a tellement tout changé entre nous qu'il vient me mettre des bâtons dans les roues alors que j'ai déjà pas une vie facile. Merde, quoi. J'ai vraiment perdu mon meilleur ami. Et d'ailleurs, ce qui était pas mal, je trouve, c'est que on comprend. Moi, je savais que c'était des amis de lycée et collège, mais quand on voit le dessin qu'ils trouvent chez la mère de Mathias, c'est des amis depuis qu'ils ont 6 ans, quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment son ami d'enfance et son meilleur pote. Et je trouve que c'est ça intéressant que je trouve que finalement, c'est Mathias qui est le plus attiré par Maxime. Et Maxime, lui, j'ai l'impression qu'il a surtout peur de perdre son meilleur pote, quoi. Plus que de vouloir une relation.
Eh ben, je suis pas sûr. Oui. Moi j'ai compris que leur attirance, elle a toujours existé et que parce qu'il y a même un rappel au début du film où en troisième ils ont craqué un soir et enfin moi pour tout dire, j'ai l'impression que même le fait qu'ils partent en Australie c'est en rapport à ça. Ouais, c'est très étrange, mais j'ai l'impression qu'en fait tout comme leur relation et c'est ce qui structure le film. J'ai l'impression que le départ en Australie pour moi c'est la fuite de cette espèce d'amitié un peu, tu vois,
qui maintenant est peut-être difficilement gérable,
quoi, ouais. D'amour sous-jacente.
Bon, alors passons au thème et au message du film. Yannick, quel est le message du film pour toi, à part que c'est dur d'être gay?
Si tu sens qu'il y a quelque chose, ne fuis pas.
je pense que ça parle de la détestation de soi, parce que voilà, lui, Max, il se déteste un peu lui-même avec cette tâche. Mathias, c'est un peu de l'homophobie d'homosexuel. Non, mais c'est un type qui est homosexuel qui ne veut pas se l'avouer et on s'en fiche. Il y a des gens qui vont dire que c'est ringard en 2019, mais évidemment, il y a encore des gens qui sont homosexuels et qui ne veulent pas l'être et qui, du coup, ont un espèce de dégoût d'eux-mêmes. Et je trouve que c'est bien incarné aussi dans la scène où il est dans la voiture avec sa copine et qu'elle le saoule et qu'il dit « c'est à cause du court-métrage, c'est ça ? Mais putain, évidemment que c'est à cause de ça !» Et elle, mais pas du tout, c'est que lui qui est, c'est dans sa tête, ça le ronge lui de l'intérieur. Et donc j'ai l'impression que c'est ça qui le met extrêmement mal et il ne veut pas être cette personne.
Oui, Yannick ?
Moi, juste sur cette question de l'homophobie, moi j'ai plus l'impression que c'est joliment traité parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce désir met en danger leur amitié, tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, c'est autre chose que l'attirance sexuelle et le simple fait d'assumer ou pas d'être homosexuel. J'ai l'impression que j'ai pas l'impression que chez Mathias, il y ait ce problème de l'homosexualité. Tu comprends ce que je veux dire ?
J'ai l'impression que lui, un petit peu, parce que. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour moi, qu'il l'appelle la tâche et que le moment où il l'appelle la tâche est important. C'est vraiment. Pour moi, c'est un dégoût. Tu vois, c'est un rejet total de la personne et de l'amitié. Mm-hmm. T'es même pas mon ami, t'es la tâche. Je te remets à ta place, entre guillemets, et tu me dégoûtes, globalement. Alors qu'en fait, il se dégoûte lui-même parce qu'il a des sentiments et une attirance. Pour Maxime. Et au-delà de ça, alors je pense que c'est pas ça le sujet principal du film, mais c'est dommage parce que c'est quand même une toile de fond qui me plaît beaucoup. Comment on évolue dans un groupe d'amis qui se connaît depuis longtemps, depuis le collège. Bah, quand on a la trentaine, déjà c'est rigolo de voir quand même que bah, voilà, Mathias il est avocat, il va peut-être être promu, et Maxime, bah, lui il est encore barman et il va partir faire son voyage d'étudiant quasiment pour être barman en Australie. Et j'ai beaucoup aimé la scène où Mathias, justement dans la voiture, dit qu'il a envie de prendre ses distances avec ce groupe-là. Et je crois que c'est un sentiment qui arrive dans beaucoup de groupes d'amis, de se dire bah non, finalement, ça ne me correspond plus. Et voilà. Bah
justement, je pense que tu mets le doigt sur un truc, c'est je pense que le vrai thème, c'est l'amitié.
Non, désolé.
Et oui, ben, je suis d'accord, le vrai thème, c'est l'amitié.
Et ben, tour final sur ce film.
Ah, et juste, par contre, je pense que l'histoire avec la mère est un. Je trouve que ça aide à construire le personnage de Maxime, mais et qu'elles sont très réussies les scènes, mais j'ai trouvé un peu trop extérieur
J'ai l'impression qu'on peut les enlever, ça n'a rien changé au film.
Exactement.
On y va donc, tour final sur ce film, Yannick.
J'ai aimé ce film parce qu'il est super bien joué, que j'ai adoré les scènes de groupe, ce qui est très rare. Et de deux, Xavier Dolan, je trouve qu'il joue super bien. Je trouve qu'il joue super bien avec les acteurs.
Très bien. Fiona ?
Oui, moi j'ai été agréablement surprise. J'avais un peu peur après l'échec de ma vie avec Donovan. Là, je trouve que c'était vraiment... Alors, est-ce que c'est un film à voir absolument ? Je ne sais pas, mais c'est vraiment un film touchant et très juste. Donc, agréable à regarder. Il y a une douceur qui s'en dégage qui m'a plu. Et effectivement, Xavier Dolan est vraiment incroyable dans ce film.
Bon, moi, je me suis globalement ennuyé quand même, on va pas se le cacher. Et puis, surtout, une scène qui m'a vraiment déçu, c'est la scène de sexe, enfin, qu'on attendait pendant tout le film. On croyait que c'était une libération, et puis exactement le même reproche que se faisait Call Me By Your Name, on ne voit rien, on dirait qu'ils sont, ils sont prudes, ils n'osent rien faire, il y a des mains dans les caleçons, on ne voit rien. Je veux dire, les scènes de sexe hétérosexuelles, on en voit énormément, on montre beaucoup, là, les scènes homosexuelles, j'ai l'impression que le cinéma n'ose pas encore montrer.
Moi je pense que Xavier Dolan, il oserait facilement montrer, mais je pense que là, il n'a pas envie de se faire reprocher de dire « Ah, il veut voir une scène de cul homosexuel », et puis que ce n'est pas tant ça, en fait, c'est le désir plus que...
Ça n'apporte rien, je pense.
Très bien, on enchaîne avec Hors Normes, écrit par Olivier Nakache et écrit Toledano, et c'est Fiona qui nous le pitch.
Alors, Bruno Haroche donne tout son temps et toute son énergie à La Voix des Justes, l'association d'accueil de jeunes autistes qu'il dirige, avec le soutien d'une autre association dirigée par son ami Malik. Mais voilà que La Voix des Justes est menacée de fermeture par l'inspection générale des affaires sociales qui mène l'enquête quant à la qualification des encadrants de l'association.
Donc, comme dit, on va commencer par les personnages. Et donc, comme tu l'as dit, Bruno Laroche. Yannick, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu serais capable de me citer un seul défaut de Bruno Laroche ?
Laroche.
J'ai dit quoi ?
Laroche,
oui.
Non, c'est voilà. Haroche.
Il est trop occupé auprès de son association, ce qui fait qu'il n'a pas le temps de rencontrer de femmes. Mm-hmm. Ce qui lui manque un peu dans sa vie.
Est-ce que ça lui manque vraiment ? Est-ce que c'est vraiment une souffrance pour lui de parler ? C'est plutôt ses amis qui lui
disent. Mais disons qu'il a quand même pas de femmes. Et tu sens que les autres, en tout cas, ouais, cherchent à lui en mettre dans les pattes.
Oui, mais pour lui, c'est pas vraiment un problème. Il fait exprès. Je veux dire, dès qu'il a l'occasion de quitter un date,
Il est désolé de quitter à chaque fois les dates, donc c'est un conflit pour moi.
Il n'est pas vraiment désolé. Pour moi, il saute sur l'occasion de sortir de cette situation qui l'embarrasse. Et il se barre dès qu'il peut, Fiona.
Oui, pour moi, il n'est pas intéressé par sa vie. Il est altruiste à 100%. Il n'a aucun défaut, cet homme, il est toujours là, il est sacrificiel.
Il ne dort pas,
il s'occupe de ses jeunes autistes corps et âme. Donc non, c'est un personnage qui est parfait, et je pense que c'est le problème des films inspirés d'histoires vraies. On ne veut pas, surtout sur une histoire qui touche un sujet aussi noble, une si noble cause, on se dit qu'il ne faut surtout pas égratigner quelqu'un qui fait autant de bonnes choses. Mais du coup, on a un personnage qui n'a pas de profondeur, qui est très, très manichéen. Quoi.
Mais surtout que moi, je pensais que le film allait répondre à cette question, c'est d'où vient cette espèce d'énorme syndrome du sauveur qu'il a. Je pensais qu'ils allaient donner au moins, pas forcément une explication complète, mais au moins un début de réponse. On ne sait pas finalement pourquoi il est comme ça. On a juste une phrase sur son passé où apparemment il s'occupait d'une colonie de vacances. Et puis il y a justement le père d'un des autistes, le premier autiste, Joseph, je crois qu'il s'appelle, qui a rejoint ça. Et c'est là, et ça a changé sa vie, et maintenant il ne fait que ça. Mais on ne sait même pas s'il est heureux, en fait, ce garçon. On ne sait même pas si finalement il s'épanouit, parce qu'il est toujours en train de se battre tout le temps. Alors est-ce que c'est ça qu'il aime plus qu'aider les autres ? On n'en sait rien.
Ce qui le rend heureux, c'est d'aider les gens, de se sentir utile. Après, c'est le problème de ce film. C'est beaucoup, beaucoup de bons sentiments. Et ce qui est dommage, c'est que ce personnage n'évolue même pas. Dans le sens où ça aurait pu être intéressant, justement, si à la fin du film, il était en date avec peut-être la petite Black avec qui on voyait qu'il avait une petite affinité, une petite attirance.
Et une des nombreuses intrigues qui n'est pas fermée. Ouais.
Et qu'on l'appelle à la rescousse pour quelque chose et qu'il dise non, je prends un peu de temps pour moi, j'ai le droit, je délègue à un tel, vous savez gérer, je vous ai bien formé. Là, on dirait que cette association s'écroule s'il n'est pas là. Et c'est ça qui est dommage. Au moins, s'il avait appris que peut-être pour aider les autres, il faut aussi s'accorder un peu de temps pour son bien-être à soi, voilà, ça aurait pu créer quelque chose autour du personnage. Mais j'ai l'impression que finalement, c'est même pas lui le protagoniste. Enfin, il n'y en a quasiment pas.
C'est un mauvais documentaire, en fait. Hein. On suit un mec qui, du début à la fin, est le même.
Oui, mais alors, donc on va parler d'autres personnages, qui est Malik, qui est, je trouve, extrêmement bien interprété par, j'ai oublié le nom de l'acteur.
Reda Kateb.
Et alors lui, par contre, lui, je lui ai trouvé un défaut, parce que c'est un peu deux fois le même personnage. En scénario, on nous le dit, hein, si c'est deux fois le même personnage, n'en faites qu'un. Bon, là, il décide d'en faire deux. Lui, il a un petit défaut, je trouve qu'il manque un peu de pédagogie avec les jeunes, parce que lui, il s'occupe de jeunes de quartier. Et vraiment, dans les réunions, il passe son temps à les humilier. Et donc, il y en a beaucoup qui se blessent et qui s'en vont. Et j'ai l'impression, alors je ne suis pas dans sa association, que c'est un petit peu contre-productif. Parce que là, ils s'en vont, ils se barrent. Et je lui dis, ouais, mais t'as de la chance qu'il soit revenu, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi il revient. Oui, Yannick.
Alors moi, je pense que les scénaristes ont pris ça comme une putain de qualité. C'est-à-dire que je pense que c'est une putain de qualité pour gérer ces soi-disant jeunes un peu turbulents. Et je pense que c'est ce qu'aiment les jeunes comme ça quand ils sont réunis. Et
c'est de se faire humilier.
Côté... Non, mais d'être considéré comme une bande de potes.
Et un peu le mec de, tu vois, à leur niveau, un peu de cité, tu vois, ce que dire qu'il a parlé mal. Je suis à peu près sûr que c'est une putain de qualité.
Très bien.
Moi, je sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ce qu'ils veulent un peu nous dire, c'est peut-être que Malik est plus doux et plus calme avec les jeunes autistes qu'avec les gens qui ne le sont pas. D'ailleurs, au moment où Dylan revient, alors qu'ils sont en train de faire des exercices un peu de danse de corporel avec les jeunes autistes, c'est juste au moment où Malik dit « Chacun a son rythme, ne les brusquez pas, chacun vient comme il peut. » Et en fait, ce message il est adressé directement à lui et Dylan. Il faut aussi prendre Dylan.
C'est-à-dire qu'il est dur, entre guillemets, avec les valides pour qu'il soit bon avec les non-valides. Donc, c'est pour moi la qualité principale de ce personnage.
Très bien. Alors, oui.
Alors, sur le personnage, j'ai l'impression que le personnage sur lequel ils auraient dû se focaliser, si ce n'était pas un autiste, c'est Dylan. Parce que c'est lui qui a le parcours le plus grand. Qui évolue le plus.
C'est notre porte d'entrée dans ce monde-là. Oui.
Ouais, et du coup, je pense qu'ils auraient dû vraiment se concentrer sur lui. Et ça aurait sans doute fait, je pense, un meilleur film.
Donc justement, on va passer à l'intrigue. Alors, l'intrigue, comme tu me le disais justement, Fiona, quand on est sorti de la salle, c'est que ce film dure 1h40, 1h50. Oui, Fiona, vas-y, dis-le.
Oui, c'est moi qui le dis. ce que je pense sur ce film. Déjà, oui, ça aurait pu faire un court-métrage. Voilà, c'est ça que tu voulais dire ?
Non, ça je voulais dire que le film aurait pu faire 15 minutes, ou 2 heures, ou 5 heures, ça n'aurait rien changé.
Exactement, c'est exactement le même film. Et je pense qu'ils ont fait un scénario qui fait 10 pages. Ensuite, ils ont pris une règle, ils ont souligné tout le scénario, et ensuite ils ont pris un stabilo, et ils ont surligné tout ce qu'ils avaient souligné. C'est-à-dire que tout ce qui nous est montré, nous est dit, nous est répété, et nous est moralisé, juste derrière. Et c'est assez insupportable. Je trouvais à voir et que je pense que le message aurait été beaucoup plus fort s'ils nous avaient juste montré et qu'ils arrêtaient de nous faire la leçon avec ils servent de l'inspection générale comme fil rouge de menace de les méchants qui risquent de fermer l'association et à chaque fois ça n'arrête pas quoi, c'est toujours l'inspection qui dit vous trouvez pas ça choquant que les jeunes soient pas formés et derrière c'est vous savez ce que je trouve choquant qu'on abandonne les jeunes autistes non mais l'un n'empêche pas l'autre hein.
c'est surtout un non débat, c'est à dire que évidemment tu vas pas faire c'est tellement plein de bons sentiments que les autres en face sont tellement méchants d'arriver et puis ils sont même pas méchants, ils sont tout le temps convaincus, c'est à dire qu'ils ont aucun argument à opposer.
Ils ont l'argument justement parce que on va parler de l'intrigue. À un moment, les scénaristes se sont dit, oulala, peut-être qu'il faudra qu'il se passe quelque chose dans notre film. Donc il y a un des autistes qui s'enfuit, j'ai toujours pas compris comment d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il jette un micro-ondes par la fenêtre avant de s'enfuir, bon bref. Et puis ils se sont dit, on va faire une scène d'action où il va marcher sur périphérique, ça va être super. Non, c'est pas super, c'est trop long. Et puis bon, là, il marche sur le trottoir, puis d'un seul coup, il se met à marcher au milieu du périph', juste au moment où il y a Bruno Laroche qui arrive. Enfin, ça marche pas, et c'est vraiment les mecs qui se sont dit on va écrire ça pour mettre un petit peu d'action dans un film qui. Bah, j'ai l'impression qu'eux-mêmes se sont rendus compte que ça tournait en rond.
Mais surtout, ce qui est curieux, c'est qu'avec cette scène-là, je trouve qu'il donne raison à l'inspection générale.
Oui, surtout.
D'une certaine façon de dire bah oui, il faut du personnel qui soit compétent et qualifié, sinon, c'est dangereux pour les autistes. Et donc, du coup. Ils essayent un peu de nous faire passer l'inspection générale pour les méchants, mais en fait, il n'y a pas de méchants dans ce film. Il n'y a absolument aucun méchant. L'association fait ce qu'elle peut et elle a raison. Elle se justifie mille fois sur pourquoi elle fait ce qu'elle fait, parce que personne ne veut de ces jeunes autistes et qu'il faut bien recruter et qu'il faut faire du un éducateur pour un autiste. Donc, c'est un personnel incroyable. Ils n'ont pas d'argent. Mais en même temps, l'inspection générale a raison de dire « Bah oui, mais vous pouvez pas laisser des jeunes autistes avec des gens qui vont peut-être abuser d'eux, être négligents. » Les deux ont raison.
Bah c'est ce que tu m'avais dit. Je pensais qu'à la fin du film, en fait, on allait découvrir que c'était deux salopards et qu'ils organisaient des combats de boxe dans des hôtels de luxe ou qu'ils les prostituaient à des Saoudiens. Ça aurait été surprenant.
Ça aurait été
quand
surprenant.
Même, qu'on le voit. Bon, c'est pas le genre de la maison avec Nakash. Mais donc, du coup, on arrive à un film qui est quand même très aseptisé où, évidemment, le sujet est tellement. Bon sentiment, tu peux pas être contre. Tu peux pas dire non,
je trouve
c'est
que c'est le truc le plus gênant, c'est que t'as l'impression d'être.
Ah, je suis désolé.
Je finis ce que tu dis, Yannick. On est pris au piège. On ne peut pas dire du mal de ce film parce que la cause est louable. Et moi, je me suis demandé qu'est-ce qui vaudrait. Pourquoi faire ce film plutôt qu'un documentaire?
C'est ça, c'est la vraie question.
En vrai, il y a aucune raison de faire un film plutôt qu'un documentaire. Mais si, la raison, c'est que on ne serait pas allé voir et personne ne serait allé voir un documentaire sur les autistes et sur les associations qui gèrent les autistes, alors que tout le monde va voir le nouveau Toledano et Nakash.
Sans doute. Yannick.
Et pour continuer sur ce que tu dis, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste à un espèce de, avec ces deux scénaristes, ils passent d'arène en arène, tu vois, les arènes, en gros, qui pourraient le plus nous tirer de larmes. Oui. Et là, on est passé par, en gros, les autistes. Tu vois, il fallait passer par les autistes. Et la prochaine fois, ça sera, je sais pas, moi, les grands brûlés. Enfin, tu vois ce que j'ai l'impression qu'à chaque fois on va nous trouver une petite histoire là-dedans et enfin on se fait chier. Enfin, honnêtement,
non, c'est dommage parce qu'ils se sont fait piquer l'arène des prématurés. Il y a eu un film il y a pas longtemps. Ouais, ils se sont fait piquer. C'est dommage parce que je pense qu'ils
étaient sur le coup.
Ouais, ils ont été très très bons là-dedans.
Non, mais alors en plus, bon, si on parle vraiment de scénario et d'intrigue, effectivement, ça ne marche pas parce que globalement, donc voilà, l'enjeu principal, la fermeture, ben c'est un fil rouge un peu plaqué qui ne fonctionne pas. Et en plus, ils nous mettent plein de mini bouts d'intrigue où ils ne vont jamais au bout. Dylan, on ne va pas au bout de sa relation avec cette petite infirmière. Elle lui envoie une fraise. On ne saura jamais ce que veut dire cette fraise.
J'ai cru que c'était seulement il y a que moi qui ne comprenais pas. Qu'est-ce que c'est que cette fraise qui...
Non plus, on ne sait pas. Une fraise, un papillon, on ne sait pas. Lui, avec ses histoires de cœur, pareil, il n'y a pas de conclusion à ça. Il n'y a pas de conclusion avec sa petite histoire, avec donc cette petite blague, alors à qui, clairement, il y a eu un petit feeling.
Il s'est passé quelque chose.
Non, le seul fil qui boucle, c'est à la fin, on comprend qu'en gros, la structure reste en place.
Oui.
Et de manière exceptionnelle, en gros, l'ARS dit...
Oui, mais... Et pareil, Joseph, on ne sait pas ce qui va se passer voilà, quand sa mère lui dit « Mais qu'est-ce que je vais passer ?» Ça, c'est le vrai sujet. Qu'est-ce qui va se passer pour Joseph quand je vais mourir ? Et qu'elle se dit « Est-ce que je ne devrais pas l'emporter avec moi dans la mort ?» Et il esquive cette question. Et en vrai, on a envie je crois que la réponse, c'est il faut des associations justement pour éviter ça.
Bah oui, mais le problème, c'est que l'association, il s'occupe de la journée. Il s'occupe pas de 24h/24.
Si, là, il a un refuge. Du coup, il faut des gens pour les sortir de là et tout ça. Mais bon, dans les personnages,
c'est
ça.
C'est-à-dire que ce message que tu entends, c'est-à-dire de se dire quel poids ont ces enfants sur leurs parents et le questionnement de la mère qui dit moi je l'emmènerai avec moi si j'avais le choix, enfin en gros j'ai pensé à faire ça, je pense qu'à aucun moment ils ont pensé à ça, c'est juste une scène comme ça et puis c'est pas pour poser des questions.
Bon, très bien, alors on va passer au message du film qui pour moi, enfin il n'y a pas plus simple, c'est faites des dons aux associations, hein, peu importe lesquelles, hein, mais clairement c'est des gens qui passent leur vie à aider les autres et ils ont toujours besoin d'argent, donc pour moi le message du film c'est regardez ces gens, ils ont un métier difficile, donnez-leur de l'argent, ils le méritent bien.
Oui, pour moi, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'étais très surprise à la fin, et je le dis sans aucune ironie, de ne pas avoir une adresse pour collecter les dons. Parce que pour moi, tout ce film est une publicité géante. Et c'est pareil, c'est pas un terme péjoratif, un peu au cinéma, mais pour dire donner pour aider ces associations, parce qu'elles ont besoin de fonds. Elles sont non seulement utiles, mais indispensables. Il faut les aider parce que justement, aussi, on nous montre que les autistes ne progressent pas quand ils sont enfermés et ligotés, enfin je sais pas comment dire, parce que c'est pas comme ça qu'ils peuvent s'épanouir et progresser. Il leur faut du temps, de l'espace, quelqu'un et un personnel qui est là avec eux, et manque de faute de moyens, on les enferme.
Et puis regarde, le film de nous deux est une énorme publicité pour la thérapie, hein, donc pourquoi pas. Tour final sur ce film, Yannick.
Nous deux, c'était 2 mois.
2 mois, pardon. À chaque fois, je me trompe. 2 mois. Tour final, Yannick.
Non, si vous voulez ressortir de là en se sentant un peu coupable et se dire pourquoi j'ai payé 13 euros, allez-y.
Fiona.
Non, c'est un mauvais film. Une noble cause ne fait pas un bon film. C'est une très bonne publicité pour les associations. C'est une bonne. C'est pas un film qui fait du mal, puisque ça peut effectivement éveiller les consciences et que les gens n'iraient pas voir un documentaire et vont voir le nouveau Toledano Nakash. Après, non. Au niveau cinématographique, au niveau scénario, ce n'est pas un bon film. Il faut pas se leurrer. Hein.
Bah écoute, je suis d'accord avec toi. J'irai plus loin. C'est même pas un film, hein, c'est un documentaire en fiction. Voilà. Ils ont pris.
C'est une mauvaise chronique. C'est une mauvaise chronique.
Ah, ça aurait pu peut-être donner un bon documentaire. J'étais pas au courant de tout ce qui se passait dans le monde de l'autisme. C'est pas un bon film. Allez, on termine avec Sorry We Miss You, écrit par Paul Laverty. Et donc, c'est moi qui vais le pitcher, puisqu'on est trois. Donc, le film se passe dans un quartier pauvre de Newcastle où vit Ricky. Et Ricky, il a un gros problème. Sa vie, c'est de la merde. Pour être exploité dans un centre de colis, il est obligé de vendre la voiture de sa femme qui, de son côté, travaille durement dans l'aide sociale. Mais ce n'est pas fini, puisque le couple doit aussi subir leur radeau en pleine rébellion adolescente, alors que le terrible capitalisme resserre peu à peu ses griffes sur eux. On va commencer donc par les personnages. Ricky, Fiona.
Les personnages, je trouve, sont justes et touchants. Contrairement à hors norme, je trouve qu'ils ne sont pas manichéens pour autant. Sauf peut-être la petite fille de 11 ans, mais on va l'autoriser à être un peu manichéenne, cette petite fille.
C'est la seule lueur d'espoir du film.
Voilà, exactement. Parce que je trouve que Ricky, il fait ce qu'il peut, mais effectivement, il n'est pas parfait, il a des défauts. Il
lui arrive que des merdes.
C'est pas le problème.
Il lui arrive que des merdes, mais parfois, il réagit pas comme il faut, comme il devrait. Il est un peu égoïste, entre guillemets.
Il est fatigué.
Non, mais avec son plan. Avec son plan d'action, de dire on va acheter une maison et du coup il faut que tu vendes ta voiture, alors que sa femme, elle en a cruellement besoin pour travailler. Il met plutôt son intérêt, enfin son plan d'avenir au-delà du confort quotidien de sa femme est indispensable d'avoir une voiture. Sa femme, elle est c'est la douceur incarnée et elle aussi extrêmement altruiste, mais elle craque. Elle gère, moi je trouve, pas très bien ses enfants. Elle fait ce qu'elle peut, mais.
T'es dur.
Non, mais elle fait ce qu'elle peut, mais avec son adolescent, lui dire oh, on lui a pris son portable, il faudrait peut-être lui rendre. Il y a un moment, il faut quand même réagir avec cet enfant.
Parce que sinon, il pourra pas parler à ses amis.
Elle a un enfant.
Si l'on arrive là.
Complètement. Il y a quelque chose qui va pas, et dans l'éducation.
Non, mais bro, c'est trop tard. S'il est arrivé là, c'est qu'ils ont déjà merdé avant. Mais on comprend que s'ils ont merdé, c'est parce qu'ils bossent comme des tarés, ils n'ont pas le temps de s'en occuper.
Tu peux en vouloir à personne. Hein. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est des dieux vivants par rapport à comment ils réagissent
à l'enfant. Non, mais ce que je veux dire, par ils sont pas parfaits, je dis pas que c'est des salauds.
Je voulais lui faire un croche-patte tout le long.
C'est pas des salauds du tout. C'est juste qu'ils sont humains. Ils sont humains. Des grands humains, des humains pleins de courage.
Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a classé les films par ordre d'horreur. Donc là, on finit. Il y a les feel good movies. Ça, c'est un feel bad movie. Hein. On prend. Alors nous, en scénario, on apprend que il faut battre son personnage quand il est à terre. C'est plus il va être mal, plus il faut lui en mettre dans la gueule, parce que plus sa victoire va être d'autant plus récompensée. Bon là, il a oublié la victoire. Du coup, ce personnage, c'est vrai que tu le vois, mais dès le début, mon pauvre Ricky, tu vas en chier, quoi. Tu t'en sortiras jamais. Et on voit les pièges dans lesquels il va tomber depuis le début. Le patron qui joue son patron dans le centre de colis. Le mec est vraiment, mais il nous dit, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ma boîte, la boîte que je te file, c'est les chiffres. Je ne t'occupe, peu importe qui tu es, je ne m'occupe pas. Et quand il vient lui quémander une semaine de congé parce qu'il doit s'occuper de sa femme, et il lui dit sa réponse, c'est horrible, je la trouve bien. Il dit, ouais, bah écoute, il y a un mec, moi, il va se faire opérer des hémorroïdes, l'autre, sa sœur s'est suicidée, l'autre, il a la peste. Voilà. Et toi, tu me dis quoi? Tu me dis que ton fils s'est fait virer d'école, mais je m'en fous de tes problèmes. Et c'est horrible, et là, on en viendra après sur l'intrigue, mais ce personnage, c'est horrible, est foutu depuis le début. Et on assiste à une longue, très très longue descente aux enfers.
De toute manière, à partir de la première scène où il l'engage en disant c'est pas un contrat, enfin ça reste sur le message, mais c'est de l'ubérisation, quoi. C'est pas un contrat, tu bosses pas pour moi, mais tu bosses avec moi. Tout ça, tu te dis déjà ouh, c'est pas une bonne idée. Après, il dit ah oui, alors pour le camion, ouh, c'est pas une bonne idée. Tu vas vendre la voiture, oh non, ce n'est que de mauvaises idées qui s'enchaînent, mais en même temps qui sont contraintes par justement un désir de s'en sortir.
Bah oui, il investit dans l'avenir.
Il pense prendre la bonne décision, c'est sûr.
Oui, Yannick.
Et je pense que, enfin moi, le gros souci sur les personnages, c'est en fait ça m'a fait l'effet Mr Bean. C'est-à-dire que Mr Bean, dans les films de Mr Bean, il se casse la gueule. Enfin, il lui arrive que des merdes. Et il y a un moment, t'en as marre. C'est-à-dire, tu dis.
Il y a un moment, tu te marres.
Non, mais c'est même pas que tu te marres. Tu dis, bon,
je me suis marré dans le film au bout d'un moment.
Dans la vie, ça se passe pas comme ça. Et j'ai eu la même impression avec ce personnage. C'est-à-dire qu'au début, tu dis, ah le pauvre, putain, il y a des problèmes avec son camion, avec ses trucs. Au bout d'un moment.
On va juste parler quand même pour finir le personnage de l'ado, qui est une des plus grosses têtes à claque que j'ai de l'histoire du cinéma. Mais d'un côté, je me dis. Je le comprenais parce que je lui ai dit, bon, déjà il vit en Angleterre, c'est déjà pas de peau pour lui.
Newcastle,
bon, j'ai pas envie de parler de physique, mais bon, c'est un peu dur pour lui. Et du coup, le pauvre, il a des parents, non pas démissionnaires, mais absents. Et à ce moment-là, pour moi, il est déjà foutu. Il traîne avec des zonards qui passent leur temps à taguer des merdes sur des murs. Il sèche les cours. Ce gosse est déjà foutu. Donc, quelque part, je le comprends. Et puis, en plus, quand t'es adolescent, t'es con. Donc, quand t'es con, t'es pauvre. Et en plus, t'as pas eu tes parents, il est obligé de finir comme ça.
Non, mais je pense que le message avec l'ado, c'est qu'ils parlent pas assez. En fait, ce qu'ils taguent, ce que j'ai compris après, c'est que ce qu'ils taguent, c'est des espèces de points d'interrogation avec des personnages qui sont censés parler. Donc, ça veut dire qu'en fait, le problème de cette famille, c'est qu'ils ne parlent pas. Donc, en fait, tout ce problème et tout le film auquel on assiste, c'est que apparemment ils n'auraient pas parlé. Bon.
Moi, je sais pas. Pour moi, je sais pas si c'est la communication, c'est plutôt effectivement la présence.
Ça en reviendra après.
Mais ceci dit, pour les personnages, oui. Moi, je trouve qu'ils sont justes. Ils sont justes, ils sont humains, ils sont touchants. Moi, j'ai même effectivement, à l'adolescent, je dis non, mais à un moment, faut le cadrer, ce gosse. Mais j'en voulais plus aux parents. Je dis, mais à un moment, le laissez pas. S'en sortir comme ça, alors oui, il fallait pas lui en foutre une, mais
laissez-moi lui mettre une baffe.
Ah, si, il l'a bien cherché quand même,
il le cherche un peu,
même si c'est pas lui sur le coup, mais
mais je le comprends, cet adolescent tête à claque. Voilà,
le mec il taque sa propre maison, quoi.
C'est la petite fille, je la trouve aussi très touchante et très juste. Celle qui fait une bêtise et qui l'avoue après, elle est extrêmement touchante. Cette scène, moi j'ai pleuré,
la meilleure scène,
j'ai pleuré.
T'étais sensible. On va passer à l'intrigue. Alors, comme je disais, c'est quand même une espèce de longue descente aux enfers, mais justement le fait que le scénariste a quand même essayé de mettre des petits moments où il y avait des espèces de petits suspense. Typiquement, je pense à l'histoire de la clé, où c'est vrai qu'on pense que c'est vraiment, il y a toutes les raisons qu'on est de croire que c'est le fils qui s'est barré, il revient, il tague les photos sauf celle où il n'y a pas son père dessus pour montrer. Puis on peut comprendre que c'est ça qui énerve sur le personnage. On comprend, mais tu vois pas que ton père fait tout pour toi et que lui considère que son travail, c'est la merde, donc il pique ses clés. Le fait que ça soit la sœur qui piquait ses clés va avec le thème du film qui est il travaille trop, mais ça apporte au moins une espèce de petite surprise scénaristique.
Oui, l'intrigue se suit bien parce que c'est une vraie descente aux enfers. Il y a une progression, hein. Globalement. On les accompagne littéralement jusqu'au craquage. Donc, c'est bien fait. Moi, j'ai un petit problème, c'est sur le cassage de gueule.
Ah voilà, c'était un petit peu trop. Là,
je trouve que c'était trop parce que, pour le coup, alors que tout le film, je le trouvais extrêmement réaliste et crédible. Là, qu'il se fasse mettre à part et un peu violenté par des gars qui veulent leur piquer des téléphones, complètement logique, et j'attendais que ça arrive.
Mais
en revanche, qu'il lui pète la gueule au sol
et
surtout qu'il aille chercher sa petite bouteille de pisse pour lui renverser dessus.
Il venait de pisser.
Il venait de pisser.
Tombe super bien.
Je trouve que c'est
chaud.
Là, c'est vraiment pour dire, regardez, et en plus de ça, on le couvre de pisse. Bah là, Ken Loach m'a perdu en me disant non, mais c'est bon, j'ai compris, et j'aurais déjà été extrêmement mal pour lui s'il se faisait péter le nez et qu'on lui volait toute sa marchandise.
Il a pu juste se faire voler sa marchandise, c'était chiant.
Hein. Oui, c'est ça. Non, et qu'on lui casse son boîtier. Mmh. Ça aurait peut-être même été encore plus chiant que l'attaque physique, parce que là, je pense qu'il n'y aurait même pas eu de... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu encore moins d'empathie du chef, du patron, disant, mais tu t'es fait voler, soi-disant. Où tu t'es fait agresser, pas du tout. Est-ce que c'est toi qui t'essayes de me voler? Voilà, il aurait pu avoir une espèce de faux procès injuste sur lui.
Ouais, mais c'est justement, je suis d'accord avec toi, c'est la scène en trop, là, vraiment, on voit le scénariste, il prend presque un malin plaisir. Je l'imaginais en train de ses doigts sur le clavier, en train de dire, et là, il prend ce flacon de pisse et lui jette dessus. Je veux dire, on a compris, t'es pas obligé d'aller jusque-là pour un, de l'empathie, et peu deux, pour ton message. D'ailleurs, on va passer au message du film.
Mais juste pour finir sur le message, je pense que justement, c'est tellement manichéen que même ça, c'est trop. C'est-à-dire de dire que le capitalisme, c'est moche. Et que libéralisation, c'est mal, c'est-à-dire que c'est l'emblème de ça, c'est de se dire, le mec, il a pas de nuance sur le sujet, tu vois ce que je veux dire, évidemment,
oui,
on est tous d'accord sur le sujet, c'est grave, c'est dur, Newcastle et tout ça, mais là, c'est tout droit, c'est-à-dire que c'est les riches sont pourris, et les pauvres souffrent, et essaient de s'en sortir.
Oui, mais alors, pour moi, le message du film, il est plus simple que ça, c'est arrêter d'être pauvre, hein. Clairement, c'est ça.
T'as envie de gagner de l'argent, quoi, tu vois.
Non, et surtout, arrêter de commander sur Amazon. Parce qu'à chaque fois que vous commandez sur Amazon, c'est ça qui se passe.
Souffre.
Il y a un petit roux qui se fait pisser dessus. Avec sa propre pisse, c'est ça le pire. Ah, je sais pas si c'est pire. Sa propre pisse ou si le mec
non,
il était sorti.
Non, je suis sur ma propre pisse, je pense. Oh, bon, bref.
Ah, c'est terrible.
On n'est pas dans ce débat-là.
Un dernier mot sur le message.
Il y a un sujet, Ken Loach, qui porte très bien, c'est l'ubérisation de la société, c'est l'esclavage moderne. Ça va tous nous tuer, c'est inhumain. Il a un sujet, il va au bout. Alors bien sûr, il n'y a aucune nuance. Et là où je pense qu'il fait une petite erreur, ceci dit, en plus du passage à tabac, c'est justement sur le personnage du patron. Je pense qu'il aurait pu avoir un personnage du patron moins caricatural du boss qui fait « j'en ai rien à foutre de tes problèmes, tu me charges ton camion et tu te grouilles ». si c'était aussi quelqu'un qui était piégé dans ce monde capitaliste.
Que des mecs n'ont pas le choix.
Voilà, que lui aussi n'a pas le choix, il est obligé de faire ses rendements, sinon lui aussi il a un prêt à rembourser, etc. etc., etc. Oui. De montrer que tout le monde est pris au piège.
C'est vrai.
Mais alors, juste un truc sur le patron, non. C'est que j'ai l'impression...
Et non, désolé. Bon, d'accord.
Sur le patron, justement, je crois qu'il y a, enfin, je suis sûr d'ailleurs, il y a une scène où justement il justifie cette position. C'est pour ça que, à mon avis, je suis pas super d'accord sur ce fait qu'il soit totalement manichéen. C'est-à-dire qu'il dit je donne aussi du boulot à plein de gens. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça va dans ce
message. C'est exactement ce que disait Steve Jobs en disant oui, j'exploite des enfants chinois, mais sans moi, ils mourraient de faim. Quoi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il défend quand même sa position. Moi, je le trouve pas si mal, le patron chauve et un peu inquiétant.
Il le défend, mais en disant, voilà, j'ai besoin de ses contrats, etc., etc., mais on ne sait pas que lui aussi, ça aurait été plus, je trouve, ça aurait bouclé la boucle de son sujet si lui aussi était endetté jusqu'au cou, qu'il n'avait pas le choix, il faut qu'il soit numéro 1.
Je me suis imaginé.
Sinon, il coule. Là, moi, je le vois pas comme ça, en fait. Même s'il le dit, on voit plus le côté, je veux m'enrichir, je veux être premier. Que j'ai besoin de ce taf-là. Alors oui, voilà, l'ubérisation, c'est de la merde. Et non, effectivement, la seule solution, c'est d'arrêter de commander et de
bouffer local. Quoi.
Mais moi, je suis sorti de ce film en disant...
Que la loi du travail évolue, quoi.
Mais moi, je suis sorti de ce film en disant, c'est mal, l'ubérisation, mais qu'est-ce que tu proposes d'autre? J'ai envie de discuter avec Ken Loach.
On est arrivé à vivre avant, l'ubérisation.
Mais oui, mais enfin, pas dans ces conditions, tu vois ce que je veux dire, avec des milliards de personnes. Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas de réponse à ça. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que.
Oui, bah, la réponse, c'est la décroissance. Mais bon, ça, on en parlera sur un autre podcast. On peut l'annoncer maintenant, on fait un sequel pitch économique. Il sortira la semaine prochaine. Allez, ton final sur ce film, Yannick.
C'était long. C'était long et j'étais content que ça se finisse.
Très bien, Fiona.
C'est bien tenu. Voilà, un bon sujet bien tenu. Après. Rien de révolutionnaire, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film, même s'il n'est pas exactement sous le prisme de l'ubérisation particulièrement, mais voilà, ça m'a rien apporté de nouveau. C'est une descente aux enfers d'une famille pauvre, c'est du Ken Loach, ça m'a pas extrêmement surpris, même si c'est extrêmement bien mené et que ça peut quand même éveiller les consciences.
Bah écoute, c'est exactement ce que j'ai pensé, c'est-à-dire ce film, j'y suis allé en traînant les pieds en me disant oh là, mais pourquoi les gens ont voté pour ça. Et écoute, finalement, oui, c'est un film qui tient son propos. Moi, j'admire toujours les films qui tiennent leur propos, peu importe si je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Avoir un propos et tenir jusqu'au bout, moi, je trouve ça déjà réussi. Et la fin est horrible quand ses enfants le supplient vraiment de pas partir. Et il est amoché, il voit plus d'un œil. On a déjà vu une scène avant où il était sur le point de s'endormir. On se dit, voilà, il va avoir un accident. Et là, enfin, la fin est ouverte, mais on sous-entend quand même qu'il va mourir. Hein,
mais justement, moi, j'aime pas trop cette fin qui se coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il me manque trois scènes. Hein,
Non.
Bah si, un petit peu. Parce que
moi, je trouve justement la fin très bien.
Tu peux aussi te dire, bon, le fils, ça y est, il a compris qu'il fallait qu'il aide ses parents et qu'il arrête
d'être
un petit con.
C'est une rare progression, c'est vrai.
Et donc, du coup, peut-être que maintenant, il va réussir son plan, on n'en sait rien.
Bah, c'est une fin ouverte. Donc, et honnêtement, moi, j'ai trouvé bien aimé. Allez, on termine avec les dérecommandations de la semaine. Yannick.
Je recommande de visiter Montréal. Après le film de Dolan, j'ai revu Montréal et je pense que c'est une ville très sympa à visiter.
Très bien, merci Yannick. Fiona.
Je vais recommander un jeu vidéo, Guillaume. Hey. Eh oui. Il ressort sur Switch deux jeux de Sega, Aladdin et Le Roi Lion. Et c'était des jeux extraordinaires sur Sega.
C'était
génial. Là, ça sort le 1er novembre. J'avoue, je n'y ai pas encore joué, mais comme je connais déjà les jeux, j'ai juste hâte de les redécouvrir sur Switch.
Tu nous en reparleras, quoi. Mais moi aussi, je vais recommander un jeu vidéo. C'est la trilogie des Phoenix Wright qui sont ressortis sur Switch. Phoenix Wright, c'est juste génial. Vous êtes un avocat de la défense et puis vous défendez des suspects dans toujours des histoires de meurtre. Et le postulat de base, c'est que votre client est forcément innocent. Et le gros du jeu, après il y a une phase enquête, c'est que vous êtes dans le tribunal et il y a un témoin qui témoigne que votre client est coupable. Donc, soit il se trompe, soit il ment. Et vous devez analyser son témoignage et repérer là où ça ne va pas, soit par des erreurs de mots, soit par des pièces à conviction. Ce jeu est tout simplement génial, les trois jeux sont sortis en même temps. Le ton est un peu cartoonesque, hein. C'est pas des histoires très réalistes, mais ce jeu est tout simplement génial, je vous dis. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve dans deux semaines pour trois nouveaux films. Vous pouvez nous écrire sur le podcast de C'est quoi le pitch et à bientôt.
Il y a des fois, on a l'impression que... Vous savez que la nature s'acharne. Hein? C'est vrai, on a l'impression qu'elle choisit quelqu'un comme ça et qu'elle se dit, toi, tu vas en chier.